Bonsoir. Félix Tshisekedi, désormais président de l'Union africaine depuis dimanche dernier, et ceci pour une durée d'une année. Cette prise de fonction a eu lieu au 34e sommet de l'Union africaine. Le chef de l'État congolais axe sa politique sur trois points, à savoir lutter contre la pandémie de Covid-19, imposer la paix dans des zones caractérisées par des conflits armés et récupérer le patrimoine culturel africain confisqué pendant la colonisation. Entre-temps, sur le terrain, cette semaine, en République démocratique du Congo, plusieurs dizaines de personnes ont été encore tuées par des attaques attribuées aux ADF dans plusieurs villages du secteur du Rwenzori au nord Kivu. Conséquence, un déplacement massif des populations est observé pendant que l'armée, elle, dit être à pied d'œuvre pour contenir la situation. Et pour aborder tous ces thèmes, nous accueillons ce soir Nico Faimbikai, journaliste au groupe de presse Le Monde et Top Média, paraissant à Kinshasa. Nico Faimbikai, bonsoir.
Bonsoir, estimé.
Thierry Bongo aussi est là avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir, mon très cher estimé confrère. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien et je salue aussi tous les auditeurs de la radio Mizène.
Très bien, journaliste et analyste politique, vous êtes. Et enfin, Aubert Mwibakecha, directeur de la radio Metanoia FM d'Uvira, province du Sud Kivu. Aubert Mwibakecha, bonsoir. Aubert Mwibakecha doit en principe nous rejoindre au cours de ce débat. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Nico Faimbikai, journaliste au groupe de presse Le Monde et Top Média, paraissant à Kinshasa. À ce stade de notre émission, Nico, quelle actualité non encore abordée ici souhaitez-vous partager?
Oui, comme vous l'avez aligné, je préfère parler de la situation économico-financière sur toute la République démocratique du Congo. Je suis en train de me poser la question au Congo, est-ce que les autorités sont-elles là ou pas? Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que beaucoup d'activités sont fermées à ce stade? Il y a toutes les salles de fête qui ont été fermées durant la première vague de Covid et lors encore de la deuxième vague, ces activités sont fermées. Nous nous posons la question. Zandou avait été fermé en son temps. Il vient encore d'être refermé. Est-ce que l'État pense-t-il à tous les responsables de toutes ces salles de fête et de tous les opérateurs économiques évoluant au marché? Parce qu'il faut vous mettre en tête que, prenez par exemple une salle de fête qui emploie ne serait-ce que 15 personnes. Et admettons qu'on a, par exemple, 100 salles de fête à Kinshasa. Faites ça 15 personnes fois 100 salles de fête, on aura au moins 1500 personnes qui ne travaillent plus. 1500 familles. Une famille congolaise peut avoir au moins 5 personnes. Faites ça 1500 travailleurs fois 500. On aura au moins 4500 personnes, 7500 personnes qui ne savent plus encore mettre quelque chose sous la dent. Allons à Zando, la même chose. Entre-temps, l'État congolais ne paye presque plus encore les agents et fonctionnaires de l'État. Prenez par exemple les assemblées provinciales, acquises au moins 6 mois d'un paiement. Si un député provincial a une salle de fête et qu'il a encore son magasin à Zando, à ce jour, comment va-t-il manger? Mais entre-temps, au lieu que l'État puisse faire le travail pour lequel il est là, l'État est ailleurs. Est-ce que au Congo aujourd'hui, quand est-ce qu'on va parler, par exemple, création de l'emploi, comment conserver les emplois, comment payer les agents et fonctionnaires de l'État et améliorer aussi les salaires des gens? Là, le débat là n'existe pas. Ici, au Congo, les débats qui concernent les dirigeants, c'est seulement les débats de poste, les débats à l'Assemblée nationale, au Parlement. Mais entre-temps, le pouvoir, on l'a, c'est pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais ou bien c'est pour se chamailler. À ce jour, ce n'est plus encore 5 ans, ce n'est plus encore 4 ans. Il reste à ce jour 2 ans, 10 mois et 19 jours. C'est-à-dire, il reste 1050 52 jours pour la fin de ce mandat. Entre-temps, qu'est-ce qu'on va dire par... qu'est-ce qu'on dira demain à la population? Je pense, si on prend le pouvoir, on ne prend pas le pouvoir pour satisfaire l'opinion internationale, mais on prend le pouvoir pour donner des solutions aux problèmes de son peuple. On ne prend pas le pouvoir pour faire plaire à l'opinion internationale. Mais vu la situation économico-socio-financière
Merci.
Des Congolais aujourd'hui,
oui.
En tout cas, il y a des
Merci.
Fois à se poser la question s'il y a encore
un État
au Congo.
Merci Nico Faye Mbikaye. Thierry Bouongo, journaliste et analyste politique, votre avant-goût informationnel.
Mon avant-goût informationnel, je ne veux pas dire que c'est une information, mais je vais juste dire deux éléments importants qui me tracassent ces derniers temps. D'abord, c'est cette tergiversation qu'on remarque au sein du gouvernement pour la reprise des cours. Nous savons que l'éducation, c'est l'élément le plus important qui formate l'avenir d'un pays. Et nous constatons avec regret que 2 ans s'écoulent et les enfants du Congo n'ont pas bien étudié. Et les enfants du Congo continuent à mal étudier sous prétexte que le Covid-19 circule dans la ville et que les enfants sont les premiers vecteurs. Mais il faut faire un tour dans les buvettes, dans les bars, dans les églises, partout, ici à Kinshasa particulièrement, et voir comment les gens sont agglutinés et ne tiennent pas compte des gestes barrières. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Pourquoi empêcher les enfants d'étudier? Empêcher des gens de circuler le soir, aussi en tant que pendant la journée, le virus peut encore se transmettre à une plus forte vitesse. Il faut qu'on puisse prendre des mesures radicales et essayer de faire pas le copier-coller comme on remarque ce qui se fait actuellement. Deuxième élément, je viens de passer un long séjour dans le Congo profond, particulièrement dans la province du Lualaba. Là, je salue particulièrement nos confrères de ROV FM qui transmettent les émissions de la Radio Kapi, tout comme mes confrères de Radio Télé Moussoumba, et encore ceux de toutes les radios qui périphériques et communautaires qui travaillent là-bas, Mikouba en parlant. Alors, je constate avec vous que j'ai eu à traverser pratiquement 800 km du Congo sur des routes impraticables du Lualaba, des routes à chaque pluie où vous trouverez un passage amoindri, un passage pratiquement inexistant. Donc, c'est une interpellation que je fais aux autorités de cette partie du pays, les autorités provinciales, mais aussi les autorités de la RDC en général, pour qu'ils puissent réhabiliter ne fût-ce que les routes viables, les routes qui apportent du vécu quotidien positif aux Congolais. Il faut vraiment que les infrastructures du Congo répondent aux réels besoins de la RDC. Et c'est ce que j'ai constaté au niveau du Lualaba, c'est que le Lualaba n'a concentré la quasi-totalité de ces travaux d'infrastructure sur les zones minières et abandonner les zones agricoles. Les mines, c'est bien, mais les zones agricoles aussi peuvent contribuer à l'économie du pays. C'est une interpellation aux autorités provinciales du Lualaba afin qu'ils puissent jeter un coup d'œil à la cité de Moussoumba, la cité de Moussoumba qui est d'ailleurs la capitale du royaume Kouba. C'est là où se trouve l'empire Kouba plutôt. C'est là où se trouve la résidence du Moitiave, de l'empereur. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a du courant, mais il y a beaucoup d'inégalités sociales dans ce niveau-là. Il y a beaucoup de problèmes sociaux dans cette ville, et surtout un enclavement qui se semble être voulu de la part de certains dirigeants du pays. Pourtant, c'est là où gorgogent beaucoup de ressortissants du pouvoir actuel et du pouvoir passé. Et je regrette aussi, quand j'ai fait ce périple-là, d'avoir vécu une cité qui était en marge de la civilisation, pas de connexion Internet, bon, il y a de l'électricité, pas d'eau potable au dos de la régie des eaux, comme on peut l'appeler, et une population qui vit une situation sociale difficile, les jeunes filles qui malheureusement n'ont pas d'avenir parce que souvent pour la plupart deviennent mères à l'âge très tôt, et voilà un tableau assez sombre qui nécessite vraiment l'intervention de politiques publiques adéquates pour ces lieux.
Merci Thierry Bouongo, Aubert Mouibakecha, qui nous avait pas encore rejoint tout à l'heure, directeur de la radio Metanoia FM d'Uvira, province du Sud Kivu, vient finalement de nous rejoindre dans ce débat. Aubert Mouibakecha, nous venons à peine de commencer. Quel commentaire libre avez-vous à partager avec nous?
Les commentaires libres d'Ona Madimba, c'est toujours revenir sur la même actualité de la fois passée. Parce que ça fait écho ici dans notre zone, c'est la campagne de l'intégrisme fiscal lancée par le bureau de coordination de société civile. Alors, selon les organisateurs, les mardis, ils vont réunir toutes les couches sociales pour évaluer la démarche et si possible, lever la mesure Et ça, c'est à la demande de l'autorité urbaine d'Ouvira qui a assuré que les travaux de réhabilitation de la route et même des ponts seront lancés bientôt.
Merci Aubert Mubaketcha. Votre petite intervention nous laisse le temps justement de rentrer en matière avec notre premier thème de ce soir. Félix Tshisekedi, désormais président de l'Union africaine depuis dimanche dernier, et ceci pour une durée d'un an. Cette prise de fonction a eu lieu au 34e sommet de l'Union africaine. Le chef de l'État congolais axe sa politique sur trois points, à savoir lutter contre la pandémie de COVID-19, imposer la paix dans des zones caractérisées par les conflits armés et récupérer le patrimoine culturel africain confisqué pendant la colonisation. Dans son discours de prise de fonction, Félix Tshisekedi s'est montré optimiste dans la réalisation des missions qu'il s'est assignées. Et dans un de nos débats cette semaine, de nombreux analystes ont aussi donné leur avis sur les chances de succès du président congolais, résumé avec Guy Maté.
Au sujet de la lutte contre la pandémie de COVID-19, le professeur Moïla Tshiembe rappelle que cela tombe à point nommé, étant donné que cette priorité qui consiste à lutter contre toute pandémie qui menacerait l'avenir de l'Afrique est déjà consignée dans la charte de l'Union africaine. Moïla Tshiembe.
Déjà, la charte même de l'Union africaine posait le problème des pandémies qui menacent l'avenir de l'Afrique et demander aux chefs d'État et de gouvernement de se mobiliser pour que l'Afrique se donne les moyens un jour de faire face à ces pandémies. Nous y sommes.
Imposer la paix est une question très délicate selon le professeur Alphonse Maindo. Il affirme que ça fait plus de 20 ans que l'on ne parvient pas à stabiliser la RDC. Il rappelle les différents massacres des civils à Beni et à Ituri. Cependant, Alphonse Maindo souligne que la RDC a un certain nombre d'atouts du fait de sa longue expérience en ce qui concerne la gestion des conflits armés. On l'écoute.
Nous avons quand même l'expérience de tous ces différents dialogues que nous avons pu avoir dans ces pays qui ont permis notamment de sauver l'unité du pays.
La récupération du patrimoine culturel africain, une des priorités du mandat de Félix Tshisekedi à l'Union africaine, est un combat de longue haleine qui bénéficie même du soutien de certains pays occidentaux tels que la France, révèle Alain Parfengoulungu.
Niko Faye Mbikaï, à la fin du mandat de Félix Tshisekedi, un bilan sera dressé. On verra à ce moment-là ce que ça aura donné pour le pays et pour l'Afrique. Mais peut-on déjà se permettre à ce stade de dire que la RDC a gagné avec la présidence de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, vu que le pays n'a connu pareille visibilité qu'il y a plus de 50 ans?
S'il vous plaît, estimé. Je commence d'abord par rectifier sur le nombre de jours qui restent pour ce mandat. Ce n'était pas 1052, c'est 1053 jours qui restent pour la fin de ce mandat. Mais là où moi je n'arrive pas à vous comprendre, vous les Congolais, vous dites que d'abord il faut se mettre en tête que la présidence au niveau de l'Union africaine, elle est rotative. Ce n'est pas le mérite d'un individu, le pouvoir là, il est rotatif, c'est-à-dire il tourne.
Oui, mais elle a tourné longtemps. Elle a tourné longtemps sans tomber sur la RDC. Elle a tourné. C'est un débat, Nico. Accepter qu'il y ait des relances. Vous affirmez quelque chose. J'aimerais quand même que vous nous expliquiez. C'est un hasard. Ça, c'est ce que j'ai compris. Mais comment expliquer que ce hasard n'est arrivé qu'avec le mandat de Félix Tshisekedi? Pensez-vous qu'il y a vraiment aucun mérite?
C'est un hasard. Mm-hmm. Figurez-vous, pour qu'un mandat tourne une année à chaque année, mm-hmm. On a 54 pays en Afrique. C'est-à-dire, il faut attendre 54 ans pour que le pouvoir vous revienne. C'est ça la logique. Et en plus, pourquoi vous les Congolais, vous vous intéressez aux futilités que gagneraient les Congolais? Le fait d'être à la tête de l'Union africaine, une histoire de dictateur, c'est ça ce qui va mettre fin à l'insécurité au pays.
Mais aujourd'hui,
le pays est insécurisé sur tous les plans.
Ne pensez-vous pas que, même si c'est un hasard, même s'il n'y a aucun mérite pour le président Félix Tshisekedi d'avoir pu faire quelque chose pour récupérer ce mandat de présidence, ne pensez-vous pas que le pays, avec cette visibilité, donnera la possibilité au président de la République de faire quand même une bonne diplomatie pour le pays et peut-être d'en tirer des dividendes économiques et financiers?
On ne développe pas un pays par rapport à ce que vous pensez. On développe un pays par rapport au travail que vous faites à l'interne. À l'interne, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre plan de relance économique depuis que vous parlez Covid? À l'interne, qu'est-ce que vous faites par rapport au Covid? Qu'est-ce que vous avez donné au peuple par rapport au Covid? Quels sont les mécanismes mis en place pour se développer? Vous pensez que le fait d'arriver à la tête d'une histoire, c'est ainsi que les Congolais vont trouver des solutions à leurs problèmes.
Ne pensez-vous pas qu'avec cette
devenu président de l'Union africaine, le phénomène des demi-terrain va se terminer? My God, qu'on a institué ici, qui a escroqué aux gens l'argent, on va retourner l'argent aux Congolais qui ont été escroqués par l'entremise de My God parce qu'on est devenu président de l'Union africaine. C'est ça?
Ne pensez-vous pas que le président...
que les Congolais connaissent aujourd'hui vont trouver des solutions parce qu'on est devenu président de l'Union africaine.
Ne pensez-vous pas que le président de la République pourra quand même faire un lobbying auprès de ses collègues pour qu'il y ait peut-être des meilleurs postes pour des Congolais dans certaines instances africaines, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, pour pouvoir attirer certains investisseurs africains et même de pouvoir vendre les quelques matières premières que regorge la RDC à certains pays africains qui pourraient en avoir besoin.
D'abord, il faut que mon peuple retienne que les jours où il y a eu prise de fonction, le président congolais s'est retrouvé seul. Seul.
Oui, ça c'est le folklore. Mais il est bel et bien le président en fonction pour une année de l'Union africaine, non?
Je peux quand même terminer.
Allez-y.
Il faut que les peuples retiennent qu'il s'est retrouvé seul. Même les pays hôtes, les présidents des pays hôtes n'étaient pas là.
Oui.
Il n'était pas là.
Oui,
là-bas, il s'est retrouvé qu'avec une délégation pléthorique de plus ou moins 500.
Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là, Nico Faimbikai, par rapport à sa fonction?
Vous, les Congolais, vous donnez d'importance à des futilités, mais vous ne donnez pas d'importance au principal. Retournez au pays, travaillez au pays, mettez en place des politiques attractives, mettez en place des politiques encourageantes, mettez en place un programme de relance économique. Depuis que Covid existe, vous avez un plan de relance économique. Vous avez un plan de... Si ce ne sont pas que les chamailleries, les violations constantes de la Constitution.
Nico Faimbikai, vous savez que par rapport au Covid, vous savez que par rapport au Covid... Nico Faye, vous savez que par rapport au Covid, c'est le monde entier qui est paralysé. Si on ne prend que les pays les plus en vue, les pays occidentaux, sont tous à l'arrêt. Beaucoup de leurs activités économiques ne fonctionnent pas. Ce n'est pas un cas particulier par rapport à la RDC. Et par rapport à la RDC, si vous voulez des indications, il y a quand même des mesures prises pour essayer de contenir, comme ça peut l'être, cette maladie. Il y a des mesures barrières, il y a le couvre-feu qui est en cours en ce moment et certaines autres mesures. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Je suis mal placé, n'étant pas spécialiste pour vraiment dresser le bilan. Donc il y a quand même quelque chose qui est fait, non?
Attends, je dis ceci, qu'on se comprenne. Vous voulez me dire, dites-moi un plan de relance économique jusque-là présenté par l'État congolais. Plan de relance économique. Joe Biden n'a même pas deux mois à la tête, n'a même pas un mois à la tête des États-Unis d'Amérique. Il a déjà un plan de relance économique. 1 900 000 milliards. Chez vous, quel est le plan de relance économique? Chez vous, le plan de relance économique, c'est quoi? C'est fermer toutes les salles de fête, mais laisser les bars fonctionner. Et vous savez que même pendant cette période, c'est la période où l'État devait se faire sentir. Lorsque vous fermez les activités économiques, mais songez aussi à la situation de la garantie locative, la situation des loyers, la situation entre le bailleur et le locataire.
Merci Nico Faimbikai. Vous revenez, vous n'êtes pas seul dans ce débat, s'il vous plaît. Vous revenez sur cet aspect à chacun de nos débats. On vous a déjà entendu là-dessus. Pouvons-nous conclure votre point de vue sur la présidence africaine de Félix Tshisekedi? Donc pour vous, ça sera un échec. ça n'apporte rien au pays, c'est ça? En un mot, ce que
je
vous voulez dire.
Je ne dis pas que c'est un exercice, que les Congolais n'attendent pas grand-chose, n'attendent rien de cette histoire. Le travail doit être fait à l'interne.
Merci. Merci.
Là où vous êtes allé, il
serait Nico.
Seul, pas même un ministre du pays autre.
Merci. Merci, Nico Faimbikaï. Thierry Bongo, quelle est votre analyse de la présidence, de la prise des fonctions, hein, puisque ça fait moins d'une semaine qu'il est président de l'Union africaine. Quelle est votre analyse sur cet événement et pouvez-vous déjà faire un petit pronostic à ce sujet?
Bon, je vais peut-être partager quelques avis de Nico Faï, mais j'ai aussi mes avis à moi par rapport à la situation qui se présente. La présidence de l'Union africaine, c'est une bonne chose, c'est une vitrine pour la République démocratique du Congo, une vitrine, c'est une occasion pour nous de nous affirmer sur le plan africain et sur le plan mondial, quitte à ce que le président de la République lui-même puisse en prendre la pleine mesure et mettre sur place des éléments de visibilité clairs par rapport à ce qui est demandé, parce qu'en réalité, même son mandat, quand il le place sur des aspects de culture et des arts, récupérer tout ce qui était comme son patrimoine culturel au niveau des pays étrangers, c'est un grand chantier, c'est un chantier important parce que la RDC a fourni à tous ces musées du monde plusieurs œuvres d'art qui racontent l'histoire de notre pays et par conséquence, nous retrouvons avec une histoire de la RDC qui commence à la colonisation et avant la colonisation. L'histoire est très mal écrite ou interprétée par d'autres personnes et auteurs étrangers.
Pensez-vous que la présidence de Félix Tshisekedi à l'Union africaine pendant une année pourra notamment permettre ce qu'il s'est donné lui-même comme calendrier, hein, c'est-à-dire lutter contre la pandémie COVID-19, imposer la paix dans les zones caractérisées par les conflits armés et enfin récupérer le patrimoine culturel africain confisqué il y a longtemps?
Je ne vais pas lui faire un procès de bonnes intentions. Je veux juste constater que, comme vous, il a énoncé un discours qui est assez ambitieux. Et depuis qu'il est président de la République, ce sont plusieurs discours ambitieux qui sortent de sa bouche. Jusque-là, dans le concret, nous sommes encore en train d'attendre. Mais pour ce qui concerne l'Union africaine, nous attendons de lui que, justement, il puisse concrétiser toutes ses promesses. La paix, c'est un élément important pour la République démocratique du Congo. Il se trouve maintenant au sommet de l'instance africaine. C'est le moment pour lui, c'est l'occasion pour lui de pouvoir rencontrer ces peuples, ou plutôt ces dirigeants africains qui tourmentent la paix dans les sols de la République démocratique du Congo. Nous savons tous que la guerre qui nous est imposée à l'est de la République démocratique du Congo est une guerre importée, c'est une guerre de nos voisins qui nous imposent sur nous pour faire main basse sur nos matières premières. Et c'est l'occasion pour lui, puisqu'il est là à la tête de l'Union africaine, d'avoir un dialogue franc avec ces gens. Seulement,
vous pensez justement,
africaine Thierry, a très peu d'influence sur les politiques internes, et j'ai même l'impression que c'est un syndicat fortuit des dictateurs et de toutes ces personnes qui sont en marge de la démocratie dans le peuple, dans le continent, et ça n'a jamais rien produit de positif. La preuve, pour qu'on puisse avoir la paix en RDC, c'est une mission onusienne qui vient, aussi en tant que nous avons l'Union africaine qui pratiquement ne sert à pas grand-chose, sinon qu'à faire de la visibilité à certains dirigeants africains.
Alors, ne pensez-vous pas justement, puisqu'il y a beaucoup de conflits en Afrique, hein, non seulement à l'interne, mais avec les pays entre eux, ne pensez-vous pas, puisque notamment au niveau des conflits inter-pays, certains pays qui ont du mal à dialoguer, qui ont du mal à s'entendre, à se mettre d'accord sur certains aspects, vu que dans ce genre d'exercice, ces pays ou les dirigeants de ces pays recourent souvent à l'arbitrage du président de l'Union africaine pour atteindre les objectifs, il pourra peut-être, justement, diplomatiquement, demander en contrepartie que ces pays aussi l'aident à notamment faire revenir la paix en RDC et dans les pays de la région. Et du coup, dans la région, il y aura la paix et probablement en RDC, il pourrait aussi avoir la paix, même causée par ces pays dont vous avez fait allusion tout à l'heure.
La paix, c'est un idéal. Partout dans le monde, la paix n'est pas quasiment totale. En Afrique, encore moins. Ce que moi je peux dire simplement, c'est que oui, c'est vrai, il peut être maintenant en avant-plan pour permettre des dialogues, des passerelles, des discussions pour la résolution de certains conflits dans le continent. Mais seulement, je ne suis pas très confiant de cette institution qu'est l'Union africaine, parce que depuis sa création, depuis sa mise en œuvre, elle a évolué, mais n'a résolu pratiquement aucun conflit. Il y a plusieurs conflits qui ont été stoppés par des institutions internationales autres que l'Union africaine. l'ONU, par exemple, aussi longtemps que l'Union africaine était présente. Et c'est, ça prouve à suffisance qu'il y a des déficiences. Moi, je suis pour une réforme de l'Union africaine, peut-être dans le modèle que Kadhafi voulait le faire. Et là, peut-être, ce serait du concret sur le plan économique et politique, dans le plan pour le continent.
Alors,
mais à l'état actuel de l'Union africaine, je ne porte pas vraiment beaucoup de garanties sur une solution ou un solutionnement
qui peut venir de l'Union africaine.
Parce que ça existe depuis longtemps et ça n'a jamais rien produit.
Alors, Thierry Wongro, pour conclure aussi avec vous ce premier sujet, sur une note de 10, vous donnerez combien au président Félix Tshisekedi pour pouvoir réussir sa mission entièrement ou en partie?
Non, je ne veux pas me mettre en devant et noter, réévaluer une personne qui n'a pas encore fait deux semaines. Seulement, je suis avec vous ici à Kinshasa.
Et on verra.
Plusieurs problèmes sur le plan local, beaucoup de problèmes sur le plan du pays. Et je ne le vois pas en même temps résoudre les problèmes internes qui lui bouffent deux ans de son mandat et en même temps se pencher sur les problèmes du continent et y réussir facilement. Donc je crois que le président de la République, c'est bien bon, c'est prestigieux d'avoir la présidence.
Cette visibilité-là.
Mais nous avons des problèmes en interne plus importants, très importants, qui nécessitent des résolutions venant de lui.
Merci Thierry. Bongo Aubert Mibaketcha, directeur de la radio Metanoia FM d'Uvira. Quel est votre regard sur le débat de ce soir?
Si le débat de ce soir en ce qui concerne la présidence de l'Union africaine, et en tout cas, quant à moi, je trouve que les questions qui concernent cette Union africaine, le président Félix Tshisekedi ne doit pas en faire une priorité par rapport aux questions du peuple congolais d'abord. C'est lui qui parle toujours du peuple d'abord. Donc, on ne doit pas vraiment avoir des excuses. Peut-être à la fin de son mandat ou à la fin de cette année, comme quoi, s'il n'a pas payé les fonctionnaires, s'il n'a pas répondu à tel ou tel autre besoin du peuple, c'est parce qu'il y a des questions de l'Union africaine qui les préoccupent beaucoup.
Aubert Mibaketcha.
Est-ce que vous avez déjà vu un pays africain qui s'est développé parce que son président est à la tête de l'Union africaine? Non, c'est juste des fonctions honorifiques qui n'ont aucune influence, qui est sociale du peuple congolais. Donc,
est-ce que vous avez déjà vu un président africain dont le pays s'est embrasé et devenu sous-développé parce qu'il avait occupé la fonction de président de l'Union africaine? Vous me posez une question à laquelle je ne peux pas vous donner une réponse, un peu comme celle que je vous pose aussi.
Oui, c'est ce que j'ai dit, Dona Madimba. C'est pour autant vous dire qu'il ne faut pas beaucoup se focaliser sur des questions de l'Union africaine. Focalisons-nous d'abord sur les questions qui nous concernent ici à l'interne, nous, Congolais. Nous devons avoir des modèles à servir aux autres en tant que Congolais. C'est vrai, nous avons la présidence aujourd'hui de l'Union africaine, mais quelles leçons nous pouvons donner aux autres pays? C'est ce qu'il faut d'abord se poser comme question. Et puis, comme l'avait déjà dit l'un de confrères, c'est pas un poste de mérite, c'est un poste qu'on occupe à tour de rôle entre les présidents. Même si c'était Dona Madimba aujourd'hui qui était président congolais, il serait président de l'Union africaine. Donc, ce n'est que normal.
Alors, Aubert.
Oui, Donald.
Alors, je partage avec vous une réflexion, hein, vous voyez. Nous avons expérimenté, par exemple, que dans les organisations internationales, lorsque à la tête, il y a un ressortissant d'un pays, généralement, quand même, il essaye de s'entourer des personnes spécialisées et qui ont des compétences venant de son propre pays dans certains postes. Je ne mets pas de jugement, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, mais il y a quand même cette influence-là. Est-ce que on peut pas espérer qu'avec le lobbying du président de la République pendant son mandat, la visibilité des Congolais qui ont des compétences pourrait en profiter?
Je n'en disconviens pas, Dona Madimba, mais dans quel domaine, c'est là que je me demande comme question, dans quel domaine où nous pouvons servir de modèle en tant que Congolais, Dona Madimba? Aujourd'hui, quand vous êtes en train de voyager, vous arrivez dans un aéroport, il y a un contrôle systématique, on vous dit qu'ils sont Congolais ici, vous pensez que vous devez avoir des traitements beaucoup plus spéciaux par rapport aux autres au moment où c'est pour vous tracasser, parce que tout simplement vous venez de la République démocratique du Congo, vous venez du Congo. Donc il y a encore beaucoup de choses à régler dans notre pays pour que nous puissions refléter une bonne image.
Alors,
en tant que peuple congolais qui ont un pays trop riche. C'est ce que je voulais en fait dire. Et aussi, Donald Maléba, quand on est président de la République, plutôt président de l'Union africaine, c'est ce que j'étais en train de dire là tantôt. C'est-à-dire qu'on a de bonnes leçons à donner à tous les autres présidents africains, dictateurs, qui ne quittent le pouvoir que quand le pouvoir ne quitte, ces présidents qui estiment qu'il faut investir ailleurs en Occident plutôt que dans les propres pays, ces présidents africains qui ne payent pas les fonctionnaires, voilà un peu ça. C'est-à-dire,
un peu de mots,
auprès du président de l'Union africaine qui pourrait un peu les inspirer par rapport à ce qu'il fait dans son pays.
Alors, un peu de mots, Robert.
Ce qui se passe dans les pays. Oui.
Un peu de mots, Robert. Vous n'attendez rien de la présidence africaine de Félix Tshisekedi. Et pour vous, cette présidence n'a servi à rien et la RDC aurait pu même s'en passer, c'est ça?
Oui, Donald, nous sommes habitués à des bons discours tels que nous l'avons encore écouté. Bon, même ses prédécesseurs à l'Union africaine, bon, ils ont tenu les mêmes discours, peut-être plus beaux que les siens. Mais l'Union africaine est toujours presque à genoux. Donc, je ne vois pas vraiment si les solutions de la RDC peuvent provenir de l'Union africaine.
Merci.
Entre nous-mêmes, Congolais, nous devons travailler main dans la main et soutenir les efforts de ceux-là vraiment qui se donnent au travail afin que nous puissions parvenir à développer notre pays.
Alors, la sécurité, la paix, c'est une des volontés dans le programme africain de Félix Tshisekedi. Mais rentrons un moment sur le terrain en République démocratique du Congo pour voir ce qui se passe ces jours-ci. Plusieurs dizaines de personnes ont été encore tuées par des attaques attribuées aux ADF dans plusieurs villages du secteur de Rouenzori au nord Kivu cette semaine. Conséquence, un déplacement massif des populations est observé pendant que l'armée, elle, dit être à pied d'œuvre pour contenir la situation. André Kitenge.
La première attaque a eu lieu vendredi dernier dans la soirée au village Ngandou, situé à plus ou moins 3 km de Alungupa. Ici, les ADF ont tué un homme, une dame a été blessée par balle et un autre homme pris en otage. La deuxième attaque a eu lieu tôt le samedi matin dans la localité de Maboulé. Selon le président de la société civile dans le secteur de Rwenzori, 5 corps ont été vus alors que la fouille continuait. Difficile de dresser un bilan définitif, mais d'autres sources parlent d'au moins 12 civils tués. Dans la soirée de dimanche à lundi, une autre attaque, la troisième, a eu lieu au village Alungupa, toujours dans le secteur de Rwenzori. Des personnes identifiées comme rebelles ADF ont fait irruption dans ce village en tuant 5 civils, dont 2 femmes. Un bilan encore provisoire selon la société civile du secteur Rwenzori. Enfin, une nouvelle attaque a eu lieu dans la nuit d'hier lundi à ce mardi à Kitovirwa, un village du secteur de Rwenzori, près de Mwenda, à 9 km de Mutwanga. Selon la société civile locale, la plupart de ces victimes ont été tués à l'armée blanche, ce qui porte à 27 le bilan provisoire des personnes tuées en l'espace de 5 jours dans le secteur de Rwenzori. Contacté, le porte-parole militaire du secteur opérationnel Sokola 1 affirme que les militaires FARDC ont été dépêchés dans la zone. Le lieutenant Anthony Mwalushai précise que pour le moment, l'armée ne dispose pas encore de bilan définitif.
Alors Robert Mouibakecha, nous avons clôturé le premier thème avec vous. Ouvrons ce deuxième thème aussi avec vous. Alors, selon vous, comment comprendre cette énième série de tueries dans cette partie du pays? Est-ce l'armée qui ne peut vraiment rien ou c'est la fameuse conspiration avec la participation notamment même de l'armée?
L'insécurité se porte toujours très bien à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est extrêmement grave, Guimaté. Ça fait plusieurs années que même ceux-là qui ont précédé Félix Tshisekedi au pouvoir, à tout moment, dans leur discours, on pouvait attendre, je vais traquer, c'est pas des rebelles, je vais pacifier l'est du pays et jusqu'à présent.
Qu'est-ce qui est à la base? Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette énième série? Parce que ce n'est pas la première. Et justement, cette incapacité à empêcher ce genre de tuerie.
Oui, vous savez, en RDC, nous avons tout sauf l'organisation. Nous avons des bons combattants, nous avons des bons militaires. mais comment ils sont organisés, comment ils sont traités, c'est ça aussi le problème d'Ona Madimba. Comment se fait-il que vous allez envoyer des troupes sur le terrain parfois aussi qui ne sont pas bien traités? Je crois que cette question, il fallait vraiment y prendre comme une priorité dans ce pays. Les militaires, il faut bien les traiter. Il faut qu'ils aient une bonne logistique. Comme ça, ils sont à mesure même de combattre l'ennemi. Nous avons des bons militaires, peut-être l'armée la plus disciplinée au monde. Mais comment elle est organisée, cette armée, par ceux qui sont censés l'organiser? C'est ça le problème.
Mais Aubert,
à un certain moment, le président de la République, quand lorsqu'il était en train de donner, de péter, je crois, de péter serment, ou pendant la campagne, je crois, il avait dit qu'il va même ériger, c'est pas l'état-major à Goma, l'état-major à Beni, tout ça juste pour chercher des voix, mais aujourd'hui, on ne les sent pas. Moi, je crois que le président de la République, il pouvait quand même se déplacer aussi un jour et dire que, voilà, dira tous ces 6 mois, je serai basé au Nord Kivu uniquement pour moi-même suivre les opérations.
Parce que parfois, alors,
il peut avoir la bonne foi, mais les personnes qu'il est en train d'envoyer, par exemple, pour conduire les troupes avec, je ne sais pas, les soldes des militaires ou la logistique des militaires, est-ce qu'ils les font parvenir fidèlement? C'est ça aussi la question qu'on peut.
Aubert Mibakecha, est-ce que vous pensez que la cause de ces tueries à répétition, c'est le fait que le président de la République ne s'est jamais rendu là-bas pour établir le fameux état-major sur place?
Je vous l'ai dit, Dona Madimba, dans d'autres pays, lorsqu'un président de la République se déplace dans une région et qu'il y a un problème, le peuple est consolé.
Donc la faute est du président de la République, et une fois qu'il va établir son quartier général là-bas, tout ça, ça va s'arrêter.
Parce qu'il sera en train de suivre de près. Vous savez, entre Goma, entre le Nord Kivu et Kinshasa, il y a 2000 kilomètres. Des fois, les gens qui arrivent à son bureau pour lui donner des rapports juste pour le flatter au moment où, s'il les intéresse, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Voilà pourquoi moi j'estime qu'il faudrait en tout cas que lui-même puisse d'abord se déployer. Nous avons vu à l'époque de Mobutu, chaque fois qu'il voyait que l'insécurité règne, lui-même des fois il se déplaçait, et même si la ligne de front, bon, je ne dis pas que le président doit prendre des larmes, mais au moins il peut venir être derrière les vaillants combattants, les FARDC.
Merci.
Et moi j'estime que ce sont des meilleurs combattants, sauf que ils ne sont pas vraiment bien organisés par ceux-là qui sont censés les organiser.
Merci Aubert Mibake. Thierry Bouongo, journaliste et analyste politique, un peu la même question. Hein. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer encore cette série de tueries? Faute de l'armée, y a-t-il encore la fameuse infiltration? Est-ce la faute du président de la République, comme l'a laissé entendre Aubert Mibakecha, ou autre raison?
Non, mais c'est une situation qui a commencé avant que Félix Tshisekedi ne soit président de la République. Et comme on dit, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et les causes n'étant pas encore totalement bien établies, il s'agit là tantôt d'une milice, ou plutôt d'un groupe terroriste appartenant à l'État islamique. On parle de groupes armés qui protègent et qui gardent des zones importantes du pays pour avoir le contrôle à même sur des minerais. On parle de ceci, de cela, et tant qu'on n'aura pas établi la cause réelle de cette infiltration, de cette guerre asymétrique, comme on l'a toujours présenté, on aura toujours les mêmes effets. Je crois que maintenant où nous sommes en train de parler, c'est le Nord Kivu qui commence à en sentir le soubresaut. On a parlé de ces EDF au niveau de l'Ituri. Ils sont en train de pulluler dans toute la partie Est de la République démocratique du Congo, et leur expansion prouve à suffisance qu'on n'a pas soigné les vraies causes de leur présence sur notre sol congolais. Et aujourd'hui, la partie Est de la RDC souffre justement de l'importance de présence de l'autorité de l'État sur cette terre. L'autorité de l'État doit se manifester par des forces de police, par des forces administratives importantes et par l'armée. L'armée est déployée sur des grandes étendues. Il faut voir l'étendue en question d'être contrôlée par l'armée. Mais est-ce que l'armée a tous les moyens pour ce faire? Vous avez entendu tous les derniers scandales qui ont éclaté dernièrement sur ce qui concerne la paix de ces militaires sur terrain, leur traitement. Et maintenant, nous sommes là en train de nous plaindre que voilà, on a tué hier, on a tué la avant-hier. Mais quel est le moyen qu'on a donné à cette armée pour juguler cette crise? Bon, nous avons entendu des informations par-ci par-là que les brigades sont en train d'être formées, formalisées pour pouvoir mettre fin à un terme plutôt à cette guerre. Attendons voir, wait and see, mais entre-temps nous déplorons que jusque-là aucune solution structurelle claire n'a été mise en œuvre pour mettre fin à cette guerre qui apporte plusieurs de nos concitoyens dans l'au-delà sans aucune raison valable.
Merci Thierry Bongo. Nico Faimbikai, journaliste au groupe de presse Le Monde et Top Média paraissant à Kinshasa. Pour vous, comment ramener la paix une bonne fois pour toutes en République démocratique du Congo et surtout dans sa partie Est?
Oui, pour ramener la paix à l'Est, il faut d'abord remettre l'autorité de l'État et éviter de se lancer dans des futilités. Mais malheureusement, l'on constate que depuis qu'il y a eu le régime actuel, on passe tout son temps à violer la Constitution, on passe tout le temps dans le verbiage, au lieu de s'apesantir aux vrais problèmes des Congolais. L'insécurité est généralisée aujourd'hui, à Kinshasa, partout. Même ceux qui sont en liberté sont en insécurité. Même ceux qui sont détenus sont en insécurité. On vient de m'appeler ce matin par un groupe de notables dans le haut où il est. Ils m'ont dit, monsieur le procureur, près le peuple, on a tué hier 20 personnes, plus de 1000 maisons brûlées, incendiées. Et alors, vous voulez qu'on dise encore quoi? Qu'est-ce qui reste encore?
Nico Faimbikai, mais la famille politique du régime passé, pour laquelle vous avez beaucoup de sympathie, a connu les mêmes problèmes pendant 18 ans, non? Les assassinats, l'insécurité, le Kuluna, et même l'insécurité chronique à l'est du pays, elle a toujours été présente pendant ces 18 ans de mandat.
Je n'ai pas de sympathie pour qui que ce soit, je donne les faits.
Oui, mais les faits, c'est aussi que l'insécurité, elle, était là déjà pour le régime passé.
Un plan de relance sécuritaire, un plan de relance économique jusque-là. Si ce n'est pas seulement violer la Constitution, si ce n'est pas seulement piller la réserve stratégique, entre-temps, vous voulez qu'on ait des yeux doux là où il y a mort d'homme. Il y a mort d'homme. Si vous n'êtes pas... Si vous ne compatissez pas avec mon peuple qu'on tue tous les jours, alors laissez-moi compatir avec ce dernier.
Alors Nico Faye, puisque vous compatissez, quelle solution?
On a tué 20 personnes, 1000 maisons ont été brûlées.
Oui, quelle solution?
Il faut restituer l'autorité de l'État. Et moi, je n'ai pas appris à continuer toujours à parler de ce qui s'est passé il y a 15 ans. Nous disons ceci à ces jours, au moment où nous tenons ces propos, que l'État sécuritaire de province de la République démocratique du Congo.
Oui, vous avez proposé comme solution.
Comme ça s'est passé dans le passé, alors on ne va plus encore régler cette question, qu'on laisse comme ça, continue à continuer les Congolais.
Vous étiez déjà en train de proposer les solutions, vous avez dit il faut ramener l'autorité de l'État, c'est la seule solution ou vous en avez d'autres, nous sommes déjà en train de terminer l'émission.
C'est une question principalement et essentiellement militaire. Aussi longtemps que vous ne mettrez pas l'accélérateur sur cet aspect-là, vous n'aurez que des yeux pour pleurer et la bouche pour parler. Or, même en droit international, le droit international lui-même, il est imparfait. Tout est proportionnel à la force d'un État. Vous êtes fort, on vous respecte. Vous n'êtes pas fort, on ne va pas vous respecter.
Merci Nico Faimbikai, merci à Thierry Bongo et à Aubert Mibakecha, vous tous trois messieurs d'avoir participé à ce numéro de Tribune de Presse. Jean-Claude Nsiala, Kéline Kouté et Guy Maté m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Tribune de Presse, c'est fini pour ce soir. Merci pour votre attention. Au revoir.